bit of the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games. What?
Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crime des chroniqueurs de la team catch-up, les shows de la WWE. Et d'ailleurs, pour vous proposer des reviews qui bougent au rythme des cordes à linge, bien sûr, et autres powerbombs, tout ce que vous aimez, sinon vous seriez pas là, hein. Aujourd'hui, on est pour la baston du mercredi. Alors préparez la trousse à pharmacie, c'est AEW versus NXT du 16 décembre 2020. Ça tombe bien puisque c'est l'édition hashtag 16 de cette baston du mercredi. Voilà, écoutez les amis, hein, Mandal, Châtaigne, Powerbomb sont au programme, rassurez-vous, ça va bien se passer. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Et pour m'accompagner, analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cette baston du mercredi, rien de tel que l'indécrottable, que l'inusable, que l'indétrônable. Papy, salut papy.
Bonjour petits enfants, bonjour tonton, ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va, voilà, là je vais te dire un truc. Quand j'ai regardé les épisodes de cette semaine, je me suis dit, me force bastonner là.
Oh c'est clair, ça sent la castagne. Surtout,
ça sent la castagne, la grosse baston.
Grosse baston du mercredi pour commencer ses vacances. Là, ça y est, les vacances des fêtes qui débarquent. Là, Noël, avec un programme bien chargé. Hein, on en parlera un peu à la fin, mais il y a de l'actualité. Hein, voilà.
Il y a du show spécial.
Ouais, il y a du show spécial dans tous les sens. Donc, écoutez, voilà. Aujourd'hui, c'est pour une baston du mercredi. Je vous donne les ratings de la team catch-up, hein, de la baston. Nous sommes donc à 7 victoires pour la AEW, 5 victoires pour la NXT et 3 matchs nuls. Le vainqueur de notre dernière baston, en l'occurrence la baston hashtag 15, ça a été l'AEW. Et donc, mon papy, je te propose qu'on commence direct par la All Elite Wrestling. Cette review des weekly du mercredi.
Allons-y,
c'est parti. Nous sommes donc en route pour Dynamite, le show weekly de l'AEW, le 64e du nom. Ça se passe toujours à Jacksonville, en Floride, USA. Ça, c'est toujours diffusé sur la TNT. Comme d'habitude, à la All Elite Wrestling, on ne déroge pas avec la tradition. Et la tradition, c'est que le show commence toujours par du catch et très souvent, par du tag team. En l'occurrence, là, on a un six-man tag team match entre Matt Hardy, les Private Party, qui sont un petit peu couvés, on va dire, par Matt Hardy, qui affronte Adam Page et le Dark Order représenté par Alex Reynolds et John Silver. Alors John Silver, il a des bras énormes, c'est un petit gabarit, mais il a des bras énormes, crâne rasé et barbu. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il cherche à débaucher absolument Adam Page, qui est, on ne sait pas trop en fait dans quel état d'esprit il est, le Adam Page. Et il a l'air d'être plus ou moins chaud quand même, il a l'air de plutôt bien s'entendre avec John Silver et compagnie. Donc, de toute façon, c'est plutôt pas mal. Ils affrontent un Matt Hardy qui, alors c'est le Hardy Party, hein, pour être bien précis. Le Hardy Party, Matt Hardy que j'ai trouvé qu'il avait un peu perdu de poids. Il m'a semblé, je l'ai semblé un peu meilleur. Alors, il peut toujours pas marcher. Il a toujours une jambe complètement raide. Et dans le ring, ça reste toujours très problématique quand même pour lui. Mais là, pour le coup, il a deux jeunes autour de lui qui eux s'envoient dans tous les sens. Donc, ça tombe plutôt pas mal. Ça va bien se donner entre les six. Ça va nous donner un match de 10 minutes 44 quand même, quoi, un petit opener. C'est vraiment, alors on est vraiment dans la norme de AEW Dynamite, j'ai envie de dire. Et voilà, un match entre 10 et un opener entre 10 et 12 minutes. Et ça va se finir avec, je vais vous raconter plutôt la fin. Voilà, ils vont sortir un peu leur moveset assez classique. Hardy va venir casser un tombé de Silver en le tirant hors du ring pour lui coller un Twist of Fate. Page va venir attaquer Hardy à l'extérieur. Mais ça va intervenir, Cassidy va lui coller un dropkick, va l'envoyer par-dessus les barricades. Pendant ce temps-là, sur le ring, Reynolds, il va porter un high kick à Cassidy. Hardy va faire un retour et va attirer l'attention du membre du Dark Order qui est sur le ring à ce moment-là. Les Private Party vont en profiter pour coller leur finisher qui est le Jean et Joe sur Reynolds. Puis ils font un tag, un petit chouille forcé, j'ai eu l'impression, par Matt Hardy, tu me diras ce que t'en as pensé, papy. Et qui a pas eu l'air de plaire tant que ça sur le coup à la team des deux. Et pour que ça soit lui, finalement, qui fasse le tomber. 1, 2, 3, victoire des Hardy Party, 11 minutes. Alors, mon papy, ce retour de Matt Hardy dans le ring, là, finalement, c'est un petit peu surprenant, ça.
Je pensais qu'il ouais, c'est un peu surprenant. T'as vraiment l'impression qu'il revient en mode full catcher, quoi. C'est qu'il est... Il était plutôt sage, on va dire, dans sa gimmick, je ne sais plus, Delete ou Woken, je ne sais plus laquelle des deux, enfin bref. Vraiment dans un Matt Hardy à l'ancienne, mais à l'ancienne, effectivement, avec toutes les limites physiques qu'il a actuellement, c'est-à-dire qu'il a vraiment une mobilité très très réduite, même si physiquement, effectivement, il n'est pas dégueulasse à voir, hein, mais par contre, il avance plus trop, il lui manque le déambulateur, tu vois, pour se déplacer mieux à Matt Hardy. Et effectivement, le finish, il le vole. Hein. Le vol, c'est les premières parties qui font le finish et il s'auto-tag pour pouvoir faire juste le tomber parce qu'il fait rien d'autre à part ça. Et il me semble que pendant le match ou avant le match, ils avaient rappelé qu'il avait éliminé aussi Adam Page de la Battle Royale pour l'histoire de la bague, mais aussi un ou les membres du Private Party. Donc ça fait deux fois qu'il leur fait un petit coup de Trafalgar, Matt Hardy, alors que. Tu vois, d'un côté, on se pose la question si Adam Page va rejoindre le Dark Order, mais finalement, ce serait peut-être Matt Hardy qui se séparerait de ses copains dans l'autre sens parce qu'il n'est pas très clean avec eux. Quoi. Le vieux profite un peu des jeunes. C'est pas très sympa. Les vieux, c'est censé pousser les jeunes.
Ouais, complètement. En catch, c'est normalement la règle. Et là, pour le coup, il aura fait un petit coup en fourbe.
Fourbe, sournois, le Matt Hardy.
Ah ! Allez, on part en coulisses où on va retrouver MJF qui est en coulisses avec tout l'Inner Circle. Et il a reçu une plaque, alors j'ai pas bien compris si c'était le New York Times et si c'était bien ce que j'ai compris, j'étais étonné que ce soit le New York Times qui décerne un trophée de best performer de l'année 2020. MJF se la joue pas mal faux cul, hein, voilà, en disant qu'il aurait jamais pu accomplir ça sans Chris Jericho. Les gens sur internet disent qu'il est meilleur que Jericho, mais lui il connaît la vérité, il sait que Jericho c'est son mentor, que c'est le GOAT. Mais il le voit aussi comme son meilleur ami, meilleur pote, quoi. Et donc, il n'aurait pas pu faire tout ça sans lui. Jericho, il nous fait un grand sourire de circonstance. Ça n'en dit pas beaucoup plus. Derrière, on va avoir un petit vidéo package, un peu ambiance Noël, avec plus qu'ambiance Noël d'ailleurs, avec Cody et Brandi Rhodes. Cody, cher au cœur à papy, qui sont en train de décorer leur sapin de Noël, hein, mon papy, hein, quand même, hein, la tradition chez les Rhodes, hein, ça déconne pas. Magnifique Brandi Rhodes en robe rouge. La sonnette va sonner, bien évidemment. Pas la cloche, mais la sonnette. Et il y a un petit cadeau devant la porte. Et Cody va l'ouvrir et il va révéler une petite boîte dans laquelle il est indiqué qu'ils attendent un bébé pour 2021. Voilà, c'était l'instant voici des Rhodes. Voilà, new baby in the new year, mon papy. Alors, heureux pour Cody ?
Bah, je suis toujours heureux pour ces familles-là. Que j'aime ou pas le catcheur, c'est toujours plaisir de... agrandir sa famille, je pense que c'est un moment important pour eux, et on voit quand même que les catcheurs, le confinement, ils ont eu besoin de s'occuper, tu vois, Seth Rollins et Becky Lynch, Moxley et René Young, je sais plus son nom, René Paquette, c'est ça son vrai nom, ouais. Et puis donc Cody et Brandy maintenant, dans les couples ex-WWE, parce que l'occurrence, je crois qu'ils sont tous rencontrés à la WWE, ces gens-là, ça fait des bébés. Voilà, c'est bon, ça va poupauder.
La famille du catch s'agrandit. Voilà. Et
maintenant, on les verra sur la gueule.
Voilà. Nos congratulations à la famille Rhodes. On pense bien à vous, on vous fait des bisous. Mais elle n'a pas fini avec la famille Rhodes. Parce que Cody, il est comme ça, il fout de la sauce ketchup partout. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il va faire un petit match quand même pour fêter ça. Il va affronter Angelico, qui est accompagné de Jack Evans. Cody, comme d'habitude, toujours avec le Hall of Famer Arn Anderson. Angelico, Jack Evans, j'ai déjà dit, c'était deux catcheurs qui évoluaient à la lucha underground. Moi, j'aime beaucoup Angelico, mais je tiens à m'insurger parce que je trouve son entrée dégueulasse. Je trouve son theme song dégueulasse. Et je trouve son entrée de lui-même, en fait, de la manière dont il rentre, là, son espèce de danse. Je sais pas, il était dans un autre mood quand il était à la lucha underground. Et franchement, je trouve j'ai beau aimer ce catcheur, je trouve tout ce package d'entrée dégueulasse. Voilà, donc ça me désole un peu. Il affronte quand même le Cody dans un match qui va durer presque 10 minutes, 9 minutes 30. C'est plutôt pas mal, ça va plutôt pareil, envoyer pas mal du lourd. Cody va bien évidemment tenter d'en finir avec un disaster kick, hein, mais Angelico, il va être assez malin tout au long du match, il va éviter les assauts, il va même tenter une belle prise de soumission sur le genou, il va un peu s'acharner sur le genou de l'ancien champion de TNT. Cody va s'en sortir quand même, hein, finira par casser la crise en attrapant les cordes. Il va vouloir tenter un crossroads, mais il va être à nouveau contré. Un petit roll-up, on sait jamais, un petit roll-up, ça peut toujours marcher, c'est toujours tentant, un petit roll-up. Après Angelico, il va avoir une phase là où ça va plutôt aller mal pour lui. Cody va avoir toute une session à s'élancer dans les cordes dans tous les sens. Il va balancer un top rope springboard de super belle qualité que je vous conseille et ça va lui donner le compte de 3. Un beau finisher, un peu inhabituel presque pour Cody. Et Cody, je le trouve en super shape. Hein. Je ne sais pas si c'est le fait d'être papa, mais je le sens bien en forme en ce moment. Là-dessus, après la victoire, la Team Taz va débarquer pour féliciter Cody pour sa victoire et sa paternité avec un petit ton ironique. Hein. Taz va se concentrer aussi pas mal sur Darby Allin qui est de nouveau assis seul dans les gradins parce que voilà, en ce moment c'est un peu sa gimmick. Darby Allin, il passe son temps assis dans les gradins, il est quand même le champion de TNT, il est beaucoup moins un fighting champion que ne pouvait l'être Cody. Hein. Voilà. De baseball, il est maquillé, vous l'aurez deviné, c'est notre ami Sting, et oui, Sting qui fait son apparition. La Team Taz est plutôt méfiante, on va dire. Il y a que Powerhouse Hobbs qui tente un peu d'aller chauffer la légende, mais finalement il va battre en retraite. Sting d'ailleurs va s'en aller en faisant juste un clin d'œil à Cody avant de longuement fixer Aline. Alors mon papy, ce match entre Cody et Angelico et après ce qui s'est passé avec la Team Taz, qu'est-ce que ça t'a inspiré?
Alors le match, effectivement, je trouve sympa. C'était avant un move qui tentait de tenter dans les matchs, l'espèce de stunner depuis la troisième corde, je crois. En fait, il monte comme pour faire son disaster kick et puis en fait il fait un stunner derrière qui est assez joli, je trouve. Alors je l'ai trouvé mal vendu par Angelico, mais bon après c'est peut-être parce que je suis pas habitué à le voir trop l'utiliser pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est un move impressionnant. Ça pour le coup, tu le vois pas et il le dégaine assez vite, donc c'est plutôt bien. Le match fameux était pas mal sans plus. C'était enfin, le souci, c'est que c'est Cody qui se bat contre un mec qui est un membre de tag team. Tu vois, c'est jamais vraiment le genre de match qui me passionne, ce genre de truc là. Et par contre, ouais, le post-match, c'était bien la première fois. Là, ça fait 3 semaines de suite qu'on a à peu près le même segment avec Darby Allin qui fout rien dans les tribunes, qui est un champion qu'on voit pas se battre, alors que c'est Cody qui se bat plus finalement. Parce qu'il vient, je suis méchant, et puis enfin là ça se répète un peu. Là franchement, c'est pas que ça m'a embêté, c'est juste que ça m'a rien fait en fait comme segment final. Je me suis dit on s'en fout quoi.
Et Sting qui sert à rien.
Et Sting qui sert à rien, que ça fait 3 semaines qu'il dit je vais vous dire des choses, hein. Mais bon on attend.
Hein. Ce rythme-là, il va marcher encore plus lentement que l'Undertaker. Ça risque de nous promettre quand même des segments passionnants.
Ouais, bon, en tout cas, c'est voilà. Tu vois, autant la première fois qu'il est apparu, je me suis dit, tiens, je vais regarder la semaine d'après pour le voir. La semaine d'après, je l'ai vu, il n'a rien fait. Cette semaine, c'est pas pour Sting que j'ai branché le truc. Et quand il est arrivé, ça ne m'a rien fait.
Eh bien, écoute, moi, j'ai trouvé le match de bonne facture, mais voilà, tout le segment qui a suivi sans absolument aucun intérêt. Donc, je vais direct enchaîner avec ce qui se passait en coulisses, où il y a Alex Marvez, l'intervieweur, qui est avec Miro, notre ex-Rousseff. Qui est en train de s'enterrer doucement mais sûrement dans la mid-card de la All Elite Wrestling. voilà, il nous dit qu'il a été sanctionné par la All Elite Wrestling de $75,000 quand même, hein, pour être intervenu dans le main event de la semaine dernière. Voilà, il dit qu'il s'en fout, il déteste Orange Cassidy. Voilà, il est en feud avec Orange Cassidy, donc ça situe un petit peu le niveau d'où on est Miro à l'heure actuelle, même si Orange Cassidy a pas mal d'exposition, mine de rien. Et la semaine prochaine, il aura quand même un match contre Sonny Kiss à Dark. Ok, super. Et Kip Sabian et lui finalement auront une grande annonce à faire pour la semaine prochaine. Mon papy, l'utilisation de Miro là,
Je suis persuadé qu'il est très heureux d'avoir quitté la WWE où il faisait plus grand chose à l'AEW où il fait pas grand chose non plus.
Ouais, c'est assez voilà, il est toujours dans cette feud en fait avec finalement Orange Cassidy là pour rien finalement parce qu'il s'y est pas passé grand chose. On peut pas dire que c'est grand passionnant. Il est pas terrible au micro. Je sais pas ce que t'en as pensé de ça aussi. Voilà, quand il parle de son histoire $75,000 tout ça, bon bah pff, voilà.
Non mais c'est comme tu dis, hein, c'est en fait l'histoire en elle-même n'a aucun intérêt et donc du coup bah et lui il a pas l'air vraiment de se bouger pour essayer de la faire vivre, tu vois, c'est C'est, ouais, voilà, ouais. C'est, on donne un truc pourri et tu te bats pas non plus pour le faire vivre. Bah, parce que là, bah, tout le monde s'ennuie.
Exactement. Allez, on retourne sur le ring où là, cette fois-ci, on a Eddie Kingston qui est arrivé. Alors lui, il est en mode un peu gangsta, quoi. C'est un catcheur. On a déjà eu l'occasion d'en parler, voilà, en baggy, en casquette, etc. Yo, wesh, wesh, les amis, je suis dans la place et je vais commencer par vous dire que moi, j'en ai rien à faire de tout le monde. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça. Il explique qu'il a toujours eu plein d'ennemis et que le dernier en date, c'est Pac. Donc, Pac, c'est Lex Neville. Je précise, hein, tu vois, parfois, c'est Lex Neville. Et, mais que comme il a blessé Pac, celui-ci a préféré retourner en Angleterre pour se soigner. Donc voilà, tranquille, tranquille, Bill. Mais pas de chance pour Eddie Kingston, et ça, moi, j'en étais bien satisfait, puisque qui débarque ? Lance Archer. Et Lance Archer va débarquer à fond la caisse sur le ring, et il va y avoir un gros brawl, une grosse bagarre qui va commencer. Là-dessus, il y aura le Butcher et The Blade, qui sont des potes de Eddie Kingston, qui vont venir au soutien. Derrière, les Lucha Brothers, les champions de la AAA, décidément, les champions par équipe de la AAA, vont débarquer eux aussi, et pour venir un peu équilibrer tout ça. Ça va partir en grosse bagarre au milieu du ring. Et là, il y a un gars qui fait son apparition dont on avait parlé juste précédemment. En l'occurrence, Pac, Lex Neville, qui débarque à la grande surprise de Tony Schiavone, qui pensait, comme Eddie Kingston, qu'il n'était pas là. Du coup, grosse bagarre qui démarre dans le ring, qui dure un petit moment quand même, et qui va tourner finalement à l'avantage des Mexicains de Pac et d'Archer. En même temps, là, vu les
4 contre 3, hein.
Il y a les 4 mecs à 4 contre 3, et les 4 mecs que c'est en plus. Là, il y a de quoi que ça fasse très très mal. Pac et Archer vont finir par se chauffer l'un et l'autre et vont même se faire un bon face à face dans le ring. Pac, à la base, il était quand même plutôt heel. Lance Archer, on a un peu du mal à déterminer son alignement en ce moment. On notera juste que Jack the Snake apparaît plus trop ces derniers temps. Bon, en même temps, c'est un gars âgé, donc il peut peut-être pas toujours être là pour tous les segments avec Lance Archer. Voilà, papy, qu'est-ce que t'as pensé de ce truc-là finalement, cette espèce d'histoire autour de... Il y a pas mal de monde, en fait, qui est impliqué, comme souvent, d'ailleurs, à Elite Wrestling. Voilà, un quatuor et un trio, là.
Ouais, c'était un peu brouillon, du coup, j'ai trouvé, oui. Moi, d'avoir avec un peu tant de monde que ça. En plus, quand t'as les faces qui sont en super étoile numérique, et c'est pas forcément propre à la IW, hein, tu vois ça aussi de temps en temps à la WWE, c'est vraiment des segments où j'apprécie très peu, en fait, moi, quand t'as plus de face que de heal, parce que tu te dis, bah, voilà, ils sont plus nombreux, ils sont face. Déjà, est-ce que c'est normal qu'ils soient plus nombreux et pourquoi ils s'acharnent autant? Enfin, c'est, au-delà du payoff de voir le heal se prendre cher, j'en ai vite marre, en fait, de ça. Donc, c'était pas plus mal qu'à la fin de Neville et l'un de ses chercheurs se chauffe un peu, mais voilà, ils ont tapé sur Eddie Kingston et ses deux blaireaux. Enfin, c'est. Il n'y avait déjà pas un clan super impressionnant de Kingston, alors qu'il y avait les deux Mexicains, et les deux Mexicains l'ont largué, donc là il reste vraiment que les trois plus nuls du clan qui se font taper dessus à 3 contre 4. Bah, c'est pas. Mais comme tu le dis, ouais, je suis d'accord avec toi, l'alignement est parfois un peu bizarre, quoi. On se demande si Neville et Lance Archer, un des deux est face, un des deux heel, est-ce que. Je pense qu'ils sont tous les deux en mode plutôt tweener, mais. Mais il y a beaucoup de mecs un peu comme ça, je pense, dans les IW, parce que c'est pareil, on en parlait tout à l'heure, Jericho, tout ça, c'est un peu dans le même genre aussi, c'est des îles qui sont acclamées, donc il y en a un peu beaucoup.
Oui, moi, concernant le trio, Butcher and the Blade, c'est des bons brawlers, mais sans plus de ça, quoi, c'est des low mid-carders. Et Eddie Kingston, alors, je l'ai déjà signalé dans les bastons, c'est un catcher que je n'apprécie absolument pas dans le ring. Il avait eu un title shot face à Moxley qui sortait un peu d'out of nowhere grâce au Covid. Et depuis, voilà, il est pas trop mal en promo parce qu'il est un peu en mode hip-hop momo. Mais très franchement, c'est un catcheur qui ne m'intéresse pas. Par contre, je suis très intéressé par ce qui se passe de l'autre côté. Puisque autant, bah, j'adore l'équipe des Lucha Brothers. Pac, c'est très bien de le voir revenir. Et Lance Archer, pour moi, c'est un petit peu une incompréhension puisque j'adore ce catcheur. Et depuis le début, je l'ai découvert à la Holy Wrestling. Et je ne comprends pas que ce mec ne soit pas plus haut dans la carte. Pour moi, c'est une énigme à l'heure actuelle, Lance Archer, puisque c'est vraiment pour moi un des top big men dans le catch mondial à l'heure actuelle, des plus impressionnants. Et je l'utiliserais d'une autre manière si je venais à travailler dans ces contrées-là.
Ouais, juste sur ce point-là, je suis assez d'accord avec toi. Les quatre, en fait, ont l'air intéressants, mais je trouve qu'on les. Enfin, on verra peut-être on verra plus tard que finalement, ils font peut-être un petit peu quelque chose d'autre, mais je trouve que pour l'instant, on les met vraiment pas trop en valeur, hein, ces quatre-là, alors que
ouais, vois,
ils pourraient faire d'autres choses, hein, mais c'est voilà, quand on les voit, puis après on les revoit plus, puis ils font un petit match contre bah, on sait pas qui, et voilà, ils ont du talent là-dedans et ils l'utilisent pas, j'ai l'impression, enfin trop ouais, pas assez. En fait.
Ouais. C'est assez. Moi, je suis assez déçu. Je trouve que Lance Archer, en fait, est en train d'avoir un traitement un petit peu à la Braun Strowman à la WWE. Et voilà, un mec tellement géant, tellement énorme, tellement balèze par rapport aux autres que du coup, on ne sait plus trop quoi en faire. On ne sait plus trop où le mettre. Il a eu un title shot pour le TNT Championship, mais qui a foiré, quoi. Il avait été battu par Cody et il n'est jamais revenu dans cette title picture là. Et depuis, voilà, pour moi, il navigue et c'est bien dommage parce que vraiment, voilà un catcher que j'aimerais pouvoir utiliser à en pleine possession, à 150%. Voilà un catcher typique qui mérite d'être cité dans cette baston du mercredi. Allez, en coulisses, on aura eu une petite interview avec Dustin Rose vite fait, hein, où il y avait parce qu'il y avait le Dark Order qui lui proposait de les rejoindre en reprenant son nom de Seven de l'époque. Mais voilà, il pense que le personnage de Seven, c'était une mauvaise idée. Et il nous annonce qu'il va botter les fesses d'Evil Uno la semaine prochaine et qu'il va le faire à Holiday Bash, qui va donc être un weekly un peu spécial quoi, de la All Elite Wrestling, comme ils aiment faire, comme ils avaient fait pour Winter is Coming, qu'on avait commenté ensemble, mon papy, si mes souvenirs sont exacts.
Tout à fait. De Sin Road.
Ouais, Dustin Rose et Evil Uno, voilà, ça c'est de la feud de low card qui nous intéresse pas plus que ça. Même si j'ai tout le respect qu'il faut à Dustin Rhodes, mais voilà. Allez, on enchaîne avec du catch, parce qu'on va avoir à nouveau un gros match collectif, puisqu'on va avoir l'Inner Circle qui va affronter les Best Friends, les Varsity Blondes et les Top Flight. Les Top Flight qui sont une équipe de deux jeunes frères. Dans les Varsity Blondes, il faut noter qu'il y a le fils de Brian Pillman, et avec une coupe mulet très saillante. Et les Best Friends, vous les connaissez peut-être déjà, Trent et Chuck Taylor. De l'autre côté, l'Inner Circle, ils sont là en force. Il y a Chris Jericho, il y a MJF, il y a Jack Hager, il y a Sammy Guevara, il y a Ortiz et Santana, avec Santana qui est de retour, qui avait été un petit peu absent. Donc ça aurait pu être un match 7 contre 7, mais Wardlow finalement n'était pas là parce qu'il a eu une urgence familiale. Donc du coup, on a retiré Avalon du match et on va avoir un match plutôt dense en tout cas, puisqu'on va avoir un match quasiment de 15 minutes. Alors là, quand c'est un bordel comme ça, vous avez autant de gars dans le ring, évidemment, là, ça chauffe. On va constater que Jericho fait quasiment les trois premières minutes intégrales, seul dans le ring, à affronter quasiment tous les faces, les uns après les autres. Vraiment, Jericho qui a mis en avant, mais tous les jeunes, il fait une session en particulier avec les Top Flight, qui est une équipe que j'aime bien, moi. Et Brian Pillman Jr. aussi, je suis en train de le découvrir. Il n'est pas du coup dans le même style cosplay, etc., que son père, mais il m'intéresse, je pense, ce jeune homme. Et voilà, vraiment beaucoup de jeunes en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, avec un Chris Jericho en papa au milieu de ça pour entourer tout le monde. J'ai presque envie de dire que même Jack Hager fait partie des mecs les plus jeunes, les plus âgés aussi de toute cette team. Voilà, ça va. C'est vraiment, je pense, un match qui a été mis et installé là pour mettre en valeur les jeunes du Varsity Blondes et du Top Flight. Bon, Jericho, il va quand même refaire du Jericho. À un moment, il va choper Garrison et il va le frapper avec sa batte avant de faire un tag à Hager qui va nous porter un F10 pour faire une petite dédicace à Wardlow et qui va aussi faire le tag à MJF. Et c'est MJF qui va profiter du truc et c'est lui qui va faire le tomber pour la victoire des Hills, pour la victoire de l'Inner Circle. Derrière, l'Inner Circle va quand même en plus rechercher à attaquer les perdants après le match, mais vont être repoussés et en particulier par les Top Flight qui vont être, alors là, sur la fin, sur le post-match, complètement mis en avant. Et ce segment va se terminer ainsi. Alors, papy, ce match multi-catcher, t'en as pensé quoi? Et toute cette jeunesse, mon papy.
Ouais, et j'en ai pensé que c'est exactement ce que j'aime pas du tout à l'AEW. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'Inner Circle, qui est, tu vois, les 5 à la limite, les 5 ensemble, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est un groupe qu'on voit tout le temps à 6, en l'occurrence, mais bon, qu'on voit tout le temps en groupe. Je ne sais plus combien ils sont, et ils sont un certain nombre. Mais en tout cas, ils sont souvent en groupe. Et là, en face, on leur a foutu une espèce de gloubi-glouba d'équipes de je ne sais pas quoi. Les machins. Quand tu voyais le nom des équipes, ça faisait machin plus machin plus machin. Tu sais pas pourquoi ils sont ensemble. On a juste dit, bah, tiens, toi, tu vas avec Bidule, etc. Les Varsity Blondes, je sais, ouais, mais peut-être que, alors, Pillman, peut-être, pour le mettre en valeur, je pense qu'il faudrait qu'on le voit deux semaines de suite déjà, et peut-être tout seul. Là, le foutre, on le voit jamais pendant trois semaines, puis d'un coup, tu le fous dans un match à 15 personnes. Bah ouais, moi j'ai vraiment beaucoup de mal quand l'IW fait ça, parce que je trouve qu'ils le font souvent. C'est-à-dire de foutre des matchs où bah, ils font des sommes de gens qui n'ont aucun rapport entre eux, ou tu sais même pas qui fait ce qu'il fait. Enfin, si, tu sais qui fait ce qu'il, mais tu sais même pas pourquoi ils ont, à un moment donné, ils se retrouvent tous dans le même ring. Et puis y en a, c'est vraiment des no-name de chez no-name, en fait. Et c'est un peu mon souci avec l'IW. Je trouve qu'il y a des moments où le roster est tellement énorme que bah il y a des gars que tu vois pas pendant 3-4 semaines, et puis d'un coup ils reviennent, ils ont un match, je sais pas pourquoi, tu sais, et puis après ils repartent, et puis t'arrives pas à t'attacher à eux, et puis voilà quoi. Enfin moi c'est le genre de match que j'aime pas du tout.
Eh bien c'est bien, parce que je suis totalement en désaccord avec toi, parce que moi j'ai trouvé ça vachement bien. Je trouve que c'est vachement bien de faire bosser la mid-card comme ça, en donnant des gros matchs et en mettant un ou deux vétérans vraiment d'expérience pour mettre un peu over tout ça. C'est en faisant des matchs qu'on obtient de l'expérience, et ces petits jeunes, ils en ont besoin. Ça nous garantit en plus du bon boulot pour la Tag Team Division, parce que là, on a déjà trois équipes du côté des Faces, sans compter qu'au moins deux équipes possibles du côté des Heels qui peuvent s'ajouter dans la Tag Team Division et qui ne font que mettre de la vie dans cette Tag Team Division à la World Wrestling. Et il y en a beaucoup de la vie dans cette Tag Team Division. Donc moi ça me dérange pas du tout, en fait, d'avoir un match collectif comme ça. Il s'avère que bah les Inner Circle, on les connaît bien maintenant, les Best Friends, je les connais très bien, Varsity Blondes, du coup je les découvre, les Top Flight, ça fait déjà je crois le, parce que la dernière Baston de mercredi qu'on a faite datait du 2 décembre, depuis on est le 16 pour la hashtag 16, le 16 décembre, et du coup dans l'intervalle les Top Flight sont apparus déjà à Dynamite. Et à l'Everacity Blondes, ils étaient déjà apparus une fois, mais pas dans le laps de temps où on était. Eux, par contre, ils ont beaucoup catché à Dark, qui est l'émission, l'émission un peu comme le main event de la WWE. Et il y a beaucoup de matchs, quoi. Donc, moi, je suis plutôt positif sur tout ce segment-là, en fait.
En fait, ce qui me gêne, en fait, moi, j'ai pas de souci avec les mettre en avant des jeunes, mettre en avant de la low card, de la mid card de temps en temps. Ce qui me gêne, en fait, c'est ça, en fait, c'est Dark. C'est les allers-retours entre Dark et Dynamite. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'allers-retours entre les deux, en fait. Et plutôt, tu vois, à la limite, alors c'est peut-être parce que j'ai ma vision WWE qui m'oriente un peu là-dessus, mais voir un gars qui serait pendant 3-4 mois à Dark, et puis ensuite il crée son truc, puis après il amène son univers à Dynamite, ça me gênerait moins que bah il fait 3 semaines à Dark, 1 semaine à Dynamite, 2 semaines à Dynamite, une semaine à Dark. Et il y a tellement d'allers-retours entre les deux que moi j'arrive pas du tout à m'attaquer. Il y a des gars, je suis d'accord avec toi, je sais que je les ai déjà vus, mais je sais plus du tout ce qu'ils font, je sais pas pourquoi ils sont là. C'est juste des jeunes en slip, tu vois. Je suis pas du tout attaché à eux, quoi.
Je comprends. Allez, on va faire un package féminin là. On va passer en coulisses avec Thunder Rosa. Qui est en rivalité avec le Dr. Britt Baker. Parce que Britt Baker a accusé Thunder Rosa, qui est une catcheuse de la NWA, d'en avoir rien à faire de la IW. Une feud un peu. Moi, comme je suis pas un fan de Britt Baker, j'ai du mal à lancer de l'enthousiasme là-dessus. Donc Thunder Rosa, elle prévient qu'elle a lutté partout à travers le monde, qu'elle a déjà affronté Serena Deeb, qui est une des grandes de la championne NWA à l'heure actuelle. Baker était intervenu d'ailleurs dans ce match. Maintenant, Thunder Rosa, elle a dans sa ligne de mire la Dr. Britt Baker. Pas de chance, il y a Reba, l'assistante de Baker, qui va arriver, qui va un peu se foutre de la figure de Thunder Rosa. C'était une distraction, mes amis, parce que Baker, elle va attaquer Thunder Rosa par derrière en lui disant qu'elle n'a rien à faire là. Elle va la mettre dans une soumission et Reba va lui lancer un verre d'eau au visage. Oulala, ça c'est digne d'une grande bagarre, mon papy, hein, ce verre d'eau au visage.
Ah, c'était violent. Bon, je pense que c'était pour effacer son maquillage, mais bon, il partait pas, donc ça servait un peu à rien.
Ouais, il juste dégouliné un peu.
Ouais, c'est un peu un autre syndrome que je trouve en ce moment de l'AEW. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça le faisait pas autant avant, et j'ai l'impression que qu'ils le font beaucoup depuis Winter is Coming. C'est en fait les segments qui t'annoncent le match de la semaine d'après, quoi. C'est oulala, attention, hein. Mais par contre, on se battra pas tout de suite.
Ouais, parce que en attendant, il y allait avoir un match, le match féminin de la soirée allait être un tag team match qui allait voir s'affronter Serena Deeb, qui est donc la championne NWA, Big Swole, qui sont donc les Face et qui vont affronter Diamante et Ivelisse, qui sont donc les Heel Ivelisse ex Lucha Underground. Ça va être un match qui va durer pas loin de 10 minutes. Bon, comme les filles à Dynamite, c'est compliqué, elles n'ont pas forcément toujours beaucoup de temps. Pas de nouvelles particulières de la championne en titre Hikaru Shida. Voilà, 10 minutes avec une domination, on va dire, des Face globalement, parce que Serena Deeb a vraiment sorti le grand jeu du fait, voilà, c'était elle qui avait le titre. On va avoir quelques moves un peu intéressants. Bon, Big Swole, pour moi, c'est une Bianca Belair de deuxième division. Moi, celle qui m'intéresse, en fait, dans ce tag team match, finalement, c'est les Heels, c'est Diamante et Ivelisse, que là, pour le coup, je connais bien toutes les deux et que j'aime bien toutes les deux. Et donc, j'aurais aimé la victoire des Heels, pour le coup. mais voilà, ça va tenter quand même quelques trucs. Swole, elle va réussir à placer un gros coup de tête avec un double underhook, qui était plutôt réussi, et une clover leaf, c'était plutôt réussi. Ça pouvait faire gagner le truc, mais Ivelisse, elle va sauver Diamante du pin. Deep va débarquer pour la stopper. Diamante, elle n'a pas d'autre choix. Elle va se retrouver dans la soumission. Elle ne va pas avoir d'autre choix que taper. Post-match, il va y avoir de l'intervention puisqu'on va avoir Nyla Rose qui va venir se rappeler à notre bon souvenir en attaquant Serena Deeb. Diamante et Ivelisse, pendant ce temps, elles vont faire la même chose en s'attaquant à Big Swole dehors et casser la gueule. Red Velvet, une autre copine, va venir pour faire le save des Face en étant munie d'une chaise. Voilà. Mon papy, c'était le match tag team féminin de la soirée. Pas de trace de la championne en titre. Et pas tellement de choses qui font avancer le schmilblick.
Non, et je vais être tout à fait franc avec toi. Au deux tiers du match, j'en ai eu marre. J'ai accéléré jusqu'à la fin. Je commençais vraiment à m'ennuyer. Là. Malheureusement, en fait, c'est toute la dernière heure de l'EW. J'ai commencé petit à petit à m'ennuyer. Et ce match-là particulièrement, où j'ai pas du tout été capable de le regarder jusqu'au bout. Je m'ennuyais trop on a beaucoup. Alors, ils essaient peut-être de faire un effort avec les filles en les remettant un peu en avant alors qu'elles étaient vraiment au fond du trou. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de mettre autant de filles d'un coup en avant et peut-être d'en construire deux trois qui seraient intéressantes. Mais là, ces filles-là, je me suis ennuyé en fait et j'ai zappé quoi. Je n'ai pas réussi à accrocher jusqu'au bout et malheureusement c'est un peu mon mood pour toute la fin de l'épisode.
C'était moi non plus. Hein, j'ai trouvé ça vraiment pas génial. De toute façon, la division féminine à AEW continue à être difficile à suivre. Ça manque de star power, ça manque de pas mal de choses là, ça manque d'un vrai élan et aussi d'une vraie envie, j'ai envie de dire, au niveau des bookers, parce que je trouve quand même que c'est assez frileux sur les filles. Donc on reste un peu dans le marasme à ce niveau-là. Allez, on quitte les femmes, on va revenir faire un tout petit reset puisqu'on va repartir vers un match tag team qui avait eu lieu un petit peu précédemment avant le match féminin qui opposait les Socal Unsorcered, les vétérans Christopher Daniels et Frankie Kazarian qui affrontaient The Acclaim, Max Caster et Anthony Bowens, qui sont des petits jeunes, encore une fois, qui viennent de Dark et qui viennent tout juste d'être signés. Ça va nous donner un match de 8 minutes. Avec une entrée, les Eclem, ils ont une entrée très hip-hop aussi, quoi, avec les mecs qui débarquent et qui prennent le mic et qui s'en prennent à leurs adversaires du soir. Ils débarquent aussi avec une boombox. Il va y avoir un petit jeu, un petit battle avec un Frankie Kazarian qui va jouer les MC de service avant de lancer le match. Voilà, petit match de 8 minutes sans grand intérêt, très honnêtement. Vraiment, là, on est vraiment dans la low mid-card, encore une fois. Hein. Et Bowens va quand même se relever d'une Blue Thunder Bomb de Daniels. Daniels était bien chaud, bien en mode showman. Il va tenter un beau crossbody de la troisième corde pour un near fall. Finalement, Caster va intervenir, va porter justement son boombox sur la tête à Daniels. Et Bowens va en profiter pour finir avec le membre des SCLU avec un slam. Les Acclaim vont célébrer ce succès, premier succès à Dynamite, et les mecs ils célèbrent déjà comme ils étaient champions du monde. Ils vont nous taper un petit rap et ils vont provoquer pas mal d'équipes, dont les Young Bucks qui sont ringside derrière les barrières d'insécurité, et ils vont les challenger ni plus ni moins que pour la semaine prochaine. Donc Zee et Clem, ils les mettent sur la table quand même, quoi, parce qu'ils font un premier match à Dynamite, ils le gagnent et derrière ils chauffent les champions au titre. C'est ça l'impertinence de la jeunesse, papy.
Il chauffe et il demande un match pour le titre où les mecs disent « Ouais, vous inquiétez pas, on met notre ceinture en jeu, vous inquiétez pas. » Donc effectivement, c'est très rapide, trop peut-être à mon goût. Voilà, comme je te dis là, la dernière heure, j'ai un peu souffert sur la dernière heure parce que encore une fois, c'est de la low card. Le Christopher Daniels, ça faisait très longtemps que je l'ai pas vu catcher. 50 ans, j'ai trouvé. C'est un mec que je trouvais qui faisait pas son âge. Mais là, les 50 ans, je les ai sentis passer quand même là.
Ne te moque pas des gens de 50 ans.
Non, mais dans le ring, tu vois. J'ai trouvé qu'il. Ça y est, on sent quand même qu'il, malgré tout son talent, malgré tout son physique un peu hors norme, parce que c'est quand même un mec qui fait des sauts impressionnants. Je sens que ça commence à le rattraper un peu. Et puis voilà quoi, c'était moyennasse, et puis bah encore une fois, c'est l'introduction pour la semaine suivante. C'est le syndrome.
Oui, écoute, c'était un match de vraiment de comme je l'ai dit précédemment, de low mid card et sans énormément d'intérêt. J'ai toujours un peu d'affection pour les Sokal and Sunsurret parce que c'est les anciens, parce que Christopher Daniel, c'est un type de ma génération. Donc voilà, mais encore une fois, moi je reste satisfait par ce parti pris dans un weekly un peu creux, la semaine avant Noël, tout ça, d'avoir lancé plein de jeunes dans ce Dynamite. Moi, écoute, c'est un truc qui passe plutôt bien auprès de moi. J'étais curieux de découvrir ces fameuses The Acclaim, là, je connaissais absolument pas. Donc du coup, parce que je ne regarde pas Dark, hein, je pousse pas le vice jusqu'à regarder Dark. Hein. Donc je connaissais pas ces deux jeunes. Donc effectivement, bon, aller voir comme ça, pourquoi pas quoi. Allez, on retourne en coulisses pour les derniers segments avant le main event. On aura les best friends qui vont nous rappeler que la rivalité avec les Proud and Powerful, en l'occurrence Ortiz et Santana, est toujours pas terminée. Et ils nous apprennent, oui, parce que j'avais oublié de le signaler avec Miro, qu'ils seront au mariage de Kip Sabian et Penelope Ford, qui est le couple de la IWE qui va se marier où il y a Miro. Et il nous explique que ça va être un segment très fun. Donc finalement, Miro, bah, il aura quitté la WWE suite à une rivalité tenue sur un mariage. Et bah, il est exactement dans le même genre de rivalité en mid-card pour le mariage de Penelope Ford et Kip Sabian. Ça fait rêver, ça, papy.
Là, je sais pas qui a le plus de chance entre lui et nous de voir ça.
Ouais, surtout voir Penelope Ford épouser Kip Sabian. Non mais quel scandale. Franchement, peuple de catch-up, insurgez-vous là.
Elle est catcheuse ou pas Penelope Ford, parce que
elle est catcheuse, ouais. Elle a même eu déjà une fois un title shot où elle a échoué, mais elle a déjà eu l'occasion d'avoir un title shot, quoi. Et moi, je la trouve pas mal du tout, Penelope Ford, dans le ring en l'occurrence. D'accord. Mais elle est quasiment la plupart du temps utilisé en valet de Miro et Kip Sabian. Quoi. C'est d'accord. La femme de quoi.
Ok.
Allez, dernier petit segment. On va avoir les FTR, nos anciens Revival à la WWE, qui viennent à la table des commentateurs et qui sont pas contents du tout. Ils demandent si la lutte par équipe compte encore ici. Alors là, quand on vient de voir tout un weekly où il y a eu je ne sais combien de matchs tag team, c'est assez trop surprenant qu'ils commencent comme ça. Ils nous expliquent en disant qu'ils comprennent pas pourquoi les Jurassic Express obtiennent tout l'attention. Alors mon papy, il faudra qu'il m'explique où étaient les Jurassic Express, quoi, puisque le Luchasaurus, on l'a quasiment pas vu depuis des semaines, et j'en suis fort mari. Donc je sais pas d'où ils sortaient ça, les FTR. Finalement, c'est Tully Blanchard, le Hall of Famer, qui est leur manager, qui va prendre la parole pour dire que la IW les a empêchés de gagner tout l'argent qu'ils méritaient. Bon, encore une fois, what the fuck. Et finalement, ça va conclure en disant qu'ils vont s'occuper de ce problème et ils repartent tous ensemble pour une intervention à la table des commentateurs qui sont déjà pas géniaux, hein, parce que Jim Ross, ça fait quand même pas rêver non plus. Alors, si c'est pour que le FTR débarque et nous déverse un nombre de fake news scandaleuses, je ne comprends pas, papy.
Ouais, et effectivement, c'est un truc qui venait de nulle part et qui repart nulle part.
C'est... Ouais, voilà, c'est exactement ça.
Et oui, je crois qu'il s'était croisé, il me semble avoir revu le Luchadoros la semaine dernière. Mais
ouais,
bon, c'est de là à dire qu'il prend toute l'attention, ça va chercher loin.
Non, mais n'importe quoi, même, j'ai envie de. Franchement, moi, je me suis dit, mais il raconte n'importe quoi, les FTR, là. Donc, c'était pauvre. Allez, on arrive à la fin. De notre IW avec le maire au papy. Alors ça va être assez rapide, donc je pense que ça va te soulager puisque ça va durer à peine 7 minutes. C'est un no DQ match entre Kenny Omega avec son nouveau manager Don Callis face à Joe Uizi Janela. accompagné de Sonny Kiss. Alors là, ne me demandez pas pourquoi c'est Joey Janela qui affronte le champion en titre, mais
c'est... Parce que c'est l'AEW.
là, vraiment, mais vraiment, je tombais de ma chaise. Hein. Ça avait été annoncé précédemment pendant le show, hein, donc je savais qu'il allait y avoir ce match-là. Mais vraiment, je m'attendais même pas en fait de l'avoir en main event. C'est ça le truc. Et si, on s'est coltiné un match de 7 minutes en main event où Omega va s'illustrer, mais j'ai envie de dire, ça va être facile, quoi. Il va quand même aller chercher une poubelle pour obtenir un peu de bordel sur le ring. Il va obtenir un compte de deux suite à un moonsault. Il va vouloir en finir avec son One Wing Angel. Mais Janela va le contrer avec son Poison Hurricane Rana. Ça, c'est un mouvement qui fait plutôt bien, que je l'ai déjà vu faire plusieurs fois. Sonny Kiss, il va en profiter pour sortir une table à l'extérieur. Janela, il va venir allonger Omega dessus. Prendre de la hauteur pour venir lui coller un leg drop qui va faire passer le champion à travers la table quand même. Janela va ensuite rouler Omega sur le ring en espérant s'en sortir, mais le Canadien va se ressaisir, va éviter la dernière tentative de moonsault de Joey Janela. Omega va finalement achever Janela avec deux V-Trigger et le One Wing Angel pour la victoire. Victoire de Kenny Omega. Là-dessus, Don Callis va venir direct sur le ring pour dire que personne peut remettre en question dans le business Omega. Pac, accompagné des Lucha Brothers, lui, il va venir parce que lui, finalement, il pense que si, il y a moyen de remettre en question. Il considère qu'ils ont un business en cours avec le champion. Ray Phoenix, lui, il n'a pas eu son match contre lui, et ça, c'est vrai, puisque Ray Phoenix devait avoir un match contre Kenny Omega lors du tournoi, et ce match a été cuté. Donc, Callis va lui dire, non, mais attends, mais toi, t'es qui? T'es un officiel de la IW, là? Depuis quand c'est toi qui boucle les matchs, quoi? Callis et Omega sont prêts à se barrer, à célébrer. Et Pac, il dit qu'il a parlé avec le patron, parce que Pac, il a ses entrées chez Tony Khan, et qu'il lui a annoncé qu'il validait le match entre Omega versus Phoenix pour le titre. C'est un title shot, c'est important quand même à signaler, pour le weekly du 30 décembre. Donc, on nous annonce à la fin un match de championnat entre Ray Phoenix et Omega pour le 30 décembre. Mon papy, je te laisse la parole pour clôturer le main event de la All Elite Wrestling.
Ouais, bah... comme toi, hein, c'est un match qui n'est un peu de nulle part. Je comprends pas. Je comprends un peu. C'est, ils se disent, Omega, bah, on va le faire passer pour un heel, donc on va lui filer de la hit en lui faisant frapper un low carder, et puis comme ça, bah voilà, c'est le champion qui est arrogant qui frappe le low carder. À noter que pendant tout le match, il y avait son copain qui commentait à voix haute avec un micro. Et en fait, ça m'a fait d'autant plus ressentir que la salle était vide. Alors, je sais bien que c'est le cas du Coronamania, mais alors, quand en plus, t'as un mec qui parle avec un micro dans une ambiance totalement vide, ça faisait d'autant plus ressentir. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là, ce match-là? Pourquoi il dure aussi longtemps? Parce que même cette nuit, c'était au moins 6 minutes 30 de trop. Moi, ça me fait pas envie de d'haïr Omega en tant que heel, ça me fait envie de zapper, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Et malheureusement, je trouve que c'est surtout la dernière heure en fait du show a été fortement comme ça. J'ai fortement eu envie de zapper. Ça me fait mal de dire ça. Je me suis forcé pour aller jusqu'au bout du show. C'était plus bien du tout. Et puis voilà quoi. Je comprends ton point de vue de dire qu'ils ont essayé de mettre en avant des jeunes. Mais là, c'est trop. Enfin, je comprends pas. Je suis pas sûr qu'ils les mettent pas en avant que ça en faisant ce genre de truc, en fait. Tu vois, ils les mettent dans le ring et puis démerde-toi et puis voilà, fais un match et puis dans deux semaines on le verra plus. Je suis pas super convaincu. Moi, les jeunes qui ont été là, j'ai retenu aucun des noms. Et puis ouais, j'ai vraiment pas apprécié du tout la fin de mon visionnage de la All Elite Wrestling cette semaine.
Ok, je comprends complètement hein, ton sentiment. Je considère que le main event était raté. Voilà, c'était clairement pour moi l'un des plus mauvais main events de Dynamite que j'ai vu. Je les ai tous vus de toute façon. Donc vraiment, pour moi, il n'y a eu aucun effort de fait derrière tout ça. S'ils considéraient que Kenny Omega avait eu un gros match dimanche passé à Triple Mania et qu'il fallait le préserver, bon bah ok, bah, dans ces cas-là, à la rigueur, carrément pas le faire catcher. Et peut-être mettre en place, je sais pas, un match pour le TNT Championship au lieu de nous faire le truc avec Sting et Darby Allin qui ring strictement à rien. Donc c'était une vraie déception pour moi ce main event là, vraiment. Voilà, et comme tu le sais, à quel point j'ai horreur de finir un show de catch par un mauvais main event. Après, le seul beau moqueur que j'aurais eu à la fin, c'est que moi je suis totalement satisfait de voir Ray Phoenix affronter Kenny Omega. Ray Phoenix est un catcheur extraordinaire. Il a déjà eu des matchs par équipe du temps d'Adam Page et Kenny Omega avait affronté les Lucha Brothers. Ça avait donné un super match. Ça va donner un super match en individuel. Pour moi, Phoenix est supérieur dans le, je le dis, hein, est supérieur dans le ring à Kenny Omega. Et je considère que ça va être une belle affiche. Mon sentiment général te rejoint quand même. Je suis largement déçu par le main event de Dynamite cette semaine.
Ouais, et juste effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est parce que tu vois, j'ai tellement déçu que je l'ai oublié. Effectivement, c'est une bonne nouvelle de voir Ray Phoenix et même Pac en fait finalement débarquer en fin de truc pour essayer de relever un peu le niveau et de mettre des vrais opposants valables en face d'Omega. Mais tu vois, ça me fait d'autant plus ressentir la déception qu'ils aient pas mis en avant Ray Phoenix depuis quelques semaines. Tu vois. Et tu vois, ils auraient pu très bien faire un peu plus de travail pour les mettre plus en valeur plutôt que de dire on les voit pas trop, puis d'un coup ils font un segment milieu de show au milieu de nulle part, et puis d'un coup pouf, ça sera lui ton challenger. Enfin, c'est des mecs talentueux, c'est vraiment dommage de pas les mettre en valeur, quoi.
Je suis assez d'accord avec tout ça. Allez, ainsi s'achève sur ces belles paroles cette review du Dynamite de la AEW. On va switcher, mon papy, on va passer
switchons.
On va passer à NXT, les amis.
Allons-y
pour NXT. Je reprends mon souffle. Je vais même me permettre de boire un verre d'eau en direct.
C'est incroyable.
Qu'ai-je fait de mon verre? Qu'ai-je fait de ma gourde? Allez, mes amis, on va passer au show jaune et noir. Alors, j'ai envie de dire, mon papy, la NXT commence en mode AEW, puisque l'épisode va démarrer s'entraîner avec direct un match par équipe, puisqu'on va attaquer d'entrée le NXT de ce mercredi avec un Austin Theory et Johnny Gargano en mode heel versus Leon Ruff et Kushida en mode face. Ah, d'entrée. Alors ça, c'est rare. Hein. Dans un show de la WWE, c'est quelque chose d'assez rare. Il peut y avoir des matchs qui enchaînent assez vite, mais il se passe souvent des choses au préalable. Et là, on va avoir un opener de 10 minutes qui va attaquer un match bien disputé où là il va y avoir des bonnes phases de domination de la part des deux équipes. Chacun va un peu montrer ce qu'il a dans les dents, dans les tripes. Leon Ruff, c'est compliqué. Moi j'ai du mal. Faire un play-by-play avec Leon Ruff, j'ai du mal. Il va quand même réussir à coller son flying cutter sur Johnny Gargano qui réussit plutôt pas mal ce move, mais il manque tellement de puissance que. Bon, il m'a étonné, mais bon, il porte une crucifix bombe. Sur un catcheur comme Johnny Gargano, ça le fait. Mais il se rend pas compte qu'il y a un changement discret de l'équipe adverse et il va se faire surprendre par Austin Theory qui va remporter dans le match avec sa prise de finition que j'ai pas réussi à identifier. Je pense qu'il en a changé. Voilà, match de 10 minutes, vraiment rapide. Juste à la fin, à la toute fin, post-match, les lumières vont s'éteindre. Et il va y avoir Dexter Lumis qui va être perché, assis, devant une table à dessin, et il est tranquillo sur une espèce de podium, et il est en train de dessiner. Ainsi va s'achever cet opener. Papy, c'est à toi.
Oui, effectivement, j'ai beaucoup pensé à toi en voyant l'opener, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il faut un opener made in AEW en commençant directement par du catch.
Ouais.
J'ai repensé à ta réflexion là-dessus. Et c'était pas mal, c'était pareil, c'était un bon opener, j'ai trouvé. Pour refaire tout de suite le parallèle avec les AEW, je trouve que là c'est utile d'avoir eu quelques constructions ces dernières semaines sur Theory et Gargano, etc. Bah du coup là quand ils sont dans le ring, même si Kushida était pas trop dans l'histoire jusque là, tu sais quand même qu'elle a au moins 3 sur 4, tu comprends pourquoi ils sautent dans la gueule, quoi. Donc ça aide un peu à être un poil plus attentif au match. Effectivement, Leon Ruff, c'est vraiment pas Jojo, je trouve. Maintenant que tu m'avais signalé ces botches la fois dernière, j'ai été attentif. Effectivement, c'est toujours à la limite, hein, ces coups. Mais bon, ça faisait le taf. Et puis, aussi une théorie, ça lui donne justement l'occasion enfin de gagner un truc. Et puis, c'est maintenant le nouveau clan, The Way, le clan des Gargano. Ouais. Et ça leur fait du bien, je pense, de recommencer par une victoire, quoi.
Ouais, enfin une victoire pour Austin Theory. Je pense que ça faisait tellement longtemps que ça lui était pas arrivé là que c'est pas plus mal de le relancer un petit peu comme ça, avec un truc un peu crade. Kushida me semble bien dans le truc en ce moment là. Il est bien, il affronte des. Je pense que Kushida va monter dans la carte petit à petit là. Et je pense qu'il va se positionner sur le North American Championship aussi.
Je pense aussi.
Sur Kushida. Voilà, c'est voilà, il est protégé, hein, c'est pas lui qui prend le pin, bien évidemment. C'est Leon Ruff qui est là pour se servir de chair à canon. Donc voilà, c'était un match plutôt sympa, voilà, 10 minutes sympa, c'est bien passé. De quoi s'énerver contre Gargamel, tout à peu près tout ce qu'il faut, quoi. Tout était à peu près là. Et mon plaisir, ça a été le post-match avec l'apparition de Dexter Lumis, qui donc en fait est en train de dessiner le logo de New Year's Evil, qui va être le prochain. Alors, je ne sais pas si ça va être un mercredi, si c'est un NXT spécial ou si c'est un pay-per-view. Je pense que c'est un.
Donc, c'est un mercredi, moi. C'est ouais, le 6, c'est un... 6 janvier, je crois.
C'est un special weekly. Et donc, il est en train de nous dessiner le logo de New Year's Evil, notre ami Dexter Lumis. Toujours aussi énigmatique.
Que de mystère.
Voilà, on nous annonce après, dans la foulée, qu'on va avoir un match ce soir entre Rhea Ripley et Toni Storm, qui est donc une ancienne rivalité puisqu'elles se sont affrontées à NXT UK à l'époque, donc elles se retrouvent dorénavant dans le NXT des grands, j'ai envie de dire. Ensuite on va avoir une petite interview toujours au niveau des filles avec Chotty Blackheart, qui va affronter ce soir Indy Hartwell, parce que leur histoire est loin d'être finie depuis les War Games, et que donc Chotty Blackheart, elle a des comptes à régler. Ensuite, on attaque avec du catch, puisqu'on va avoir un match entre Tommaso Ciampa, qui arrive avec un sacré masque, là. Hein. Il arrive, hein, moi qui aime les masques. J'avoue que je suis impressionné par le masque de Tommaso Ciampa. Et de toute façon, il a un look, ce mec-là, qui il inspire la peur. J'aimerais pas le croiser dans une rue sombre le soir. Surtout pas en déambulateur. Et il va affronter Tyler Rust, qui est le jeune padawan de Timothy Thatcher, qui a déjà eu quelques interactions avec Tommaso Ciampa. Ils vont avoir un match, voilà, on parlait de mecs qui mettent en valeur des jeunes, bah, c'est ce que va faire Tommaso Ciampa avec Tyler Rust. Il va bien évidemment gagner, hein, ça va être un match qui va durer 9 minutes. Tommaso Ciampa, il reste dominateur, il reste le former champion. Mais Tyler Rust va pouvoir un peu développer son catch, va pouvoir un peu s'attaquer comme il faut, essayer de retenir les leçons de Timothy Thatcher, tenter quelques soumissions. Timothy Thatcher, bien évidemment, vous vous en doutez, il va venir interférer. Et pendant que le match se déroulait à l'extérieur, Rust, pas de chance, bah il va taper son maître Jedi, ou plutôt son maître du côté de la Force Obscure, hein, en l'occurrence Timothy Thatcher, il est plutôt heel, et ça va énerver ce dernier, mais l'arbitre va l'empêcher d'intervenir. Au final, Ciampa, il va s'en sortir tranquille avec sa Willow's Bell, as usual. Victoire de Tommaso Ciampa, mon papy. Alors, en voilà un petit jeune à la NXT qui débarque.
Ouais, bah voilà, c'est bien comme tu disais. Moi, ça me dérange pas, hein, que les jeunes y soient avec, ils prennent le ring avec les vieux, mais j'aime bien qu'on les connaisse et qu'il y ait une raison, tu vois. Et en l'occurrence, c'était plutôt logique de voir ce match-là. Alors, je vais pas revenir sur le match en lui-même. Tu l'as bien fait, bien décrit. À la fin du match, il y a un mec.
Oui. J'ai pas parlé
du l'ancien manager des Indiens là, qui débarque, c'est ça? Tu pourras peut-être m'en dire plus, que
j'ai
bon en fait.
Ouais, parce que après le match, Timothy Thatcher, il veut en découdre avec Ciampa, quoi, mais il est retenu. Et du coup, Ciampa, il décide de quitter le ring et il jette un t-shirt de Thatcher et puis c'est court de catch, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça dont tu parles?
Non, tu sais, ouais, je sais plus. Enfin, le manager des Indiens là.
Excuse-moi. Ah ouais, lui je l'ai zappé. Alors lui carrément, carrément, tu vois, il a traversé mon champ visuel, mais c'est tout quoi.
Et il vient, je sais pas ce qu'il fait. Il me semble avoir vu la semaine dernière aussi. Il fait quoi? C'est un mec qui recrute? On sait pas. De toute façon,
Ouais, c'est ça. C'est un espèce de manager qui cherche à recruter. Ouais, effectivement. Ouais. Mais
rien
de notable. Ouais, tellement notable, tellement pas notable que je m'en
étais même zappé, pas rendu compte. Mais non, en fait, moi ça m'a marqué parce qu'en fait, je me demande vraiment pourquoi ils continuent à se tourner autour Ciampa et Thatcher en fait. Et donc, du coup, je cherche une raison en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être lié à ça, mais même pas, je sais pas trop en fait. Là, je sais pas trop où ils veulent en venir en fait, je t'avouerai.
Ouais, non, je sais pas. Là, j'ai pas plus de réponses que toi là-dessus. Donc, écoute, on verra, on suivra ça. On vous tiendra au courant, les amis. Et puis, tiens, un petit coup de fact-checking pour notre peuple de catch-up. Dites-nous un peu qui c'est exactement ce gars-là, ce manager des, peut-être des Indiens, peut-être des cow-boys, on sait pas. Donc, dites-nous qui c'est ce gars-là. Là. Parlez-nous-en. On sera intéressés. Ouais, on répondra dans les commentaires sur YouTube. Allez, petite vignette de présentation vite fait. Ils y ont déjà eu droit la semaine dernière, les Grizzly Duke Veterans. Et il y a deux semaines, voilà, ils nous sont proposés. C'est des, pareil, des mecs qui viennent de NXT UK. Des mecs assez stiff, vous verrez, je pense qu'ils vont être balancés en tant que heel. Et après cette petite vidéo, cette petite vignette, qui on va avoir en vidéo de présentation, et ben on va avoir Karrion Kross, quoi. Donc ça y est, Karrion Kross, il est dans la place. Karrion Kross, il est bien de retour. Il est bien, bien chaud. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, à suivre, à suivre.
Il ouais, va y avoir... Et je trouve, juste sur ces deux vidéos, ouais. Je les ai trouvées intéressantes. Je les ai trouvé intéressant parce que la tag team, ils ont évoqué le fait que la division tag team était en train de se renouveler. Ils ont un peu présenté du coup toutes les équipes qui faisaient partie de la division tag team en présentant les You Grizzly Veterans, leur disant bah tiens, on va affronter machin. Ils ont pas parlé du turnover qui est en cours dans cette division. Et Karrion Kross, pareil, tu vois, c'est le retour d'un mec et puis du coup, ça relance un peu l'intérêt. Là, d'un coup, tu as la division tag team, la division heavyweight qui reprennent l'intérêt d'un coup, là.
Ouais, complètement, ouais. Je suis bien d'accord avec ça. Allez, on enchaîne avec un match, puisque là, on va avoir un match, c'est pour du sérieux, puisqu'on va avoir un match pour déterminer le number one contender au titre NXT, détenu par Finn Balor. Et on va avoir un match presque british, en tout cas, on va avoir du sang roast beef qui va venir couler sur le ring de NXT, puisqu'on a Pete Dunne qui débarque et qui va affronter Kyle O'Reilly, qui se sont déjà affrontés il y a peu, puisqu'ils se sont affrontés lors des War Games, dans un match collectif. Alors là, écoute, on est en plein milieu du show de NXT, Peuple de Catch-Up, et on se retrouve avec un match de quasiment 23 minutes. Donc, pas un number one contendership match. De rien du tout. Non. 23 minutes. Alors, avant même que le match commence, en plus, il va se passer des trucs. Puisqu'il y a Killian Dane qui, pendant ce temps, va attaquer Danny Burch et Oni Lorcan. Qui, donc, sont là en accompagnant de Pete Dunne. L'Undisputed Era est aussi débarqué. Et même les Breezango aussi ont débarqué. Donc, on peut dire qu'il y aura eu de l'overbooking as fuck. Sur le ring, ça va être brutal. Ça va être pas loin d'un match de pay-per-view. En tout cas, en termes de timing et en termes d'action et en termes d'intervention, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, comme un match qui était pas loin d'un match de pay-per-view, d'un niveau de pay-per-view. Et c'est Kyle O'Reilly qui va s'imposer, qui est en pleine hype à NXT quand même depuis plusieurs semaines, qui est remonté, qui est à lui tout seul en fait à retransformer l'Undisputed Era en clan face. Vraiment, il est dans une vibe là. Il a le momentum, le Kyle O'Reilly, et il va gagner non sans mal, hein, parce que le Pete Dunne va lui coller tout ce qu'il va pouvoir lui coller. Ça a été bien stiff. Et voilà, nouvelle chance NXT, parce que c'est la deuxième fois que Kyle O'Reilly obtient un title shot pour le titre individuel. Il va gagner avec son finisher habituel, son diving knee, hein, pour la victoire. 1, 2, 3, victoire de Kyle O'Reilly. Papy, alors, 23 minutes de bonheur ?
Ouais, plutôt, mais je suis comme toi, je suis sur le cul que ce soit pas le main event. Ce match-là, en plus, on en reparlera quand on verra le main event, mais je suis super surpris du positionnement de la carte.
Ah, moi vraiment,
au milieu. Alors, sur le coup, je me suis dit, il va y avoir une entourloupe. Surtout quand j'ai vu tout le monde débarquer, je me suis dit, en fait, ils vont truquer le truc et puis en 5 minutes, ça va être bâché. Et puis non, au final, ils font un vrai match derrière avec une victoire décisive de Kyle O'Reilly qui du coup, il s'impose vraiment comme un des top face de NXT, en fait. C'est le mec qui se révèle là sur cette fin d'année, au point qu'Adam Cole est vraiment totalement devenu inexistant dans le Speed Era. Je suis super surpris, le match très solide. J'en viens à me demander s'il n'y a pas un gros truc qui se prépare pour ce fameux 6 janvier, parce qu'il est vraiment tellement poussé haut et du coup, je sais pas si, il y a un truc à se passer, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Et en plus, qu'il affronte Finn Balor qui est face aussi, deux fois de suite, il y a un truc qui va se passer. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui va se passer.
Voilà, bon, écoute, moi j'ai trouvé que c'était un très bon match, donc vraiment le meilleur là cumulé de tout ce qu'on a dit depuis le début de cette review. En plus, un match voilà avec les ingrédients, il y avait de la castagne, voilà, il y avait plein de mecs qui sont arrivés, les Brisangos qu'on fait faut reparler d'eux. Tout ça, moi ça m'a bien chauffé, enfin voilà, j'étais bien à fond pendant tout le combat et j'hésitais, Pete Dunne, je voyais bien Pete Dunne hein, choper un title shot hein, donc c'était en plus voilà, il y a pour moi il y avait rien d'évident dans la victoire de Kyle O'Reilly. Donc clairement vraiment un beau match et un beau number one contender. Donc écoute, ça annonce du bon ça. Allez, on continue, on va avoir un petit passage par les filles où on aura Rhea Ripley qui va être interviewée un peu avant son match. Elle dit qu'elle a un message pour Tony Storm, quoi, que c'est plus la Rhea Ripley qui était à NXT UK. Mais par contre, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que Tony Storm, ça reste une merde. Merci Rhea. Derrière, on va avoir une petite vignette aussi. Alors là, voilà, on parle de sang et de tripes. On va avoir une vignette spéciale chinoise avec Xia Li et Boa, qui sont donc les deux catcheurs et catcheuses chinois à la WWE Performance Center actuellement. On les a vus un petit peu. Boa, il aura eu quelques shots dans les Royal Rumble. Xia Li, elle a eu quelques petits matchs en individuel, mais elle a un peu disparu et depuis, ils n'apparaissent plus que dans ces vignettes un peu mystiques accompagnées d'un espèce de gourou aux ongles dégueulasses. Voilà, la chinoise, elle est dévastée parce que elle est en larmes, elle est en pleine crise parce qu'elle est elle est obligée par son gourou justement à défoncer Boa à grands coups de kick. Et le Boa, il est dans un sale état d'ailleurs, hein, il a la tronche en sang et tout quoi. Donc tiens mon petit papy, qu'est-ce que t'as pensé de ce truc là, cette Chinese Connection là?
Ouais, alors moi je suis plutôt friand de ce genre de truc, tu vois. Quand tu fais un repackaging d'un personnage, j'aime bien que tu travailles un peu le sujet. J'espère qu'ils savent ce qu'ils vont faire derrière, que ça sera pas juste demain elle va revenir, elle va perdre un match, ça sera terminé. Mais pour le coup, bah tu vois, c'est peut-être l'occasion de la lancer vraiment parce qu'elle a jamais vraiment, à part que c'était une chinoise, on savait rien d'elle, tu vois. Là, ils sont vraiment en train de lui faire un espèce de background intéressant. Je suis impatient de voir ce que ça donnera quand elle va vraiment se battre dans le ring et puis bah. Est-ce que le fameux gourou, c'est juste là pour les vignettes, ou est-ce que ça sera aussi un personnage qui sera utilisé dans l'histoire d'NXT? Je n'en sais rien. J'espère que c'est pas du vent et qu'ils vont vraiment capitaliser là-dessus, parce que pour le coup, je trouve ça plutôt sympa. Ces deux athlètes chinois qu'on voyait vraiment très peu, puis qui étaient vraiment utilisés pour boucher les trous, bah là, ils sont en train de développer vraiment une personnalité. Donc, j'attends de voir la suite.
Ouais, eh bien, je te rejoins aussi parce que j'aime bien en fait ces vignettes là depuis ça fait peut-être 3 semaines que ça dure un truc comme ça. C'est des trucs assez courts. On sent vraiment une espèce de colère là de Boa et de Xia Li vraiment déchaînée. Et ouais, je suis assez friand de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils vont intervenir ensemble quand ils vont finalement revenir vers le ring? Où est-ce qu'on va les séparer? Je suis curieux de voir ça et je suis curieux de voir si le maître Caroline va venir aussi, tu vois, on va avoir un manager. Ça fait longtemps, moi, un manager asiatique, quoi. On peut se rappeler de maître Fuji, hein, le fameux, quoi. Et moi, j'aime bien un peu comme ça les maîtres Caroline qui débarquent et moi, ça m'intéresse bien. Donc, j'espère qu'ils vont en faire un truc sympa. En tout cas, pour l'instant, j'ai un bon a priori.
Ce sera peut-être un catcheur, hein, le maître Chaline, on n'en sait rien. J'ai l'impression qu'il y en a deux, tu vois. Il y a le vieux qu'on voit, et puis t'as l'autre avec ses ongles dégueulasses, effectivement, où on voit juste un œil. C'est pas dit que ce soit pas un catcheur, hein, celui-là.
C'est pas dit, non, c'est vrai. Pour l'instant, on n'a pas idée de l'âge exactement qu'a ce maître Chaline, on va bien voir. Hein. Mais en tout cas, voilà, ils ont trouvé le moyen, NXT, voilà, d'attiser notre curiosité, finalement. Avec cette reprise en main et ce repackaging de nos catcheurs et amis chinois. Allez, on retourne vers du catch, on retourne vers un match de catch, puisqu'on va avoir le match féminin annoncé au préalable entre Chotzi Blackheart et Indy Hartwell. Ça va être un match assez court, puisque ça va être un match qui va se dérouler en 4 minutes 06, parce que le problème, c'est que Indy Hartwell, elle va venir accompagner de Austin Theory, de Candice LeRae, de Johnny Gargano. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne pouvait que partir en cahuète pour Chotzi Blackheart. Mais elle est quand même maligne, la je sais pas comment l'appeler, quoi, je peux même pas dire la goutte, quoi, mais comment tu la décrirais?
La verdâtre.
La verdâtre, en mode un peu couleur blob. Voilà. Candice LeRae, elle va venir un peu foutre le dawa ringside, elle va venir distraire l'arbitre. Du coup, Hartwell, elle va choper le trophée, là, l'espèce de trophée moche d'ailleurs, avec la tête de Black Hart dessus, et elle va venir frapper la pauvre Chaudzi avec. L'arbitre va la voir et disqualification de Indy Hartwell. Donc victoire du coup de Chaudzi Black Hart. Je pense que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas gagné un match en individuel. Après le match, ça va mal se passer pour elle, hein, parce que Candice LeRae va venir porter son finisher sur sa rivale du moment. Voilà, voilà comment se termine ce segment, ce premier match féminin de la soirée, mon papy.
Ouais, non, je compte pas vraiment pas comme un match féminin finalement. Bon, je suis d'accord, c'est un match, hein, mais pour moi, c'est de la low card, c'était court, c'était juste pour dire, bah, pour présenter un peu plus le nouveau clan des Gargano, quoi. Pour moi, c'est vraiment du remplissage pour donner un peu de consistance au clan, quoi. Voilà, c'est des mecs qui sont violents et puis qui sont très très méchants.
Tout à fait. Allez, il y aura une petite vignette d'un mec très très méchant d'ailleurs, très très costaud après, juste avant le match qui suivra, qui sera de Bronson Reed, voilà, oui. Qui semble être sur le retour. Hein, Bronson Reed d'ailleurs avec des petites dédicaces, des petites références à Bam Bam Bigelow entre autres. Et j'aimais beaucoup Bam Bam Bigelow. Donc lui et Kevin Owens aussi fait des références de temps à autre à Bam Bam Bigelow. Et merci les gars de rappeler les catcheurs du passé comme ça. Mon papy, on revient sur du catch. Et là, on va avoir un homme dont on parlait précédemment, d'une vignette justement. Mais là, il est pas là en vignette. Il est pas là pour déconner. Il est là pour se bastonner. Mais vite fait alors. Hein. C'est donc Karrion Kross, le former champion, qui affronte Desmond Troy. Alors le pauvre Desmond Troy, il devait être en mode trouille. Parce que là, bah, c'est chaud, quoi. Hein. Victoire éclair, squash absolu de Karrion Kross avec une double de Saito, une rear naked, choc. Le pauvre Desmond Troy, rest in peace, hein, papy.
Ouais, bon, après, voilà, c'est ce que. Sincèrement, j'aurais été déçu qu'il le massacre pas si vite.
Hein. Ah, bah oui, on attendait tout ça. Je te rassure.
Voilà, on a mis la bestiole, là, on a mis la chèvre dans l'enclos du tyrannosaure. Bah...
Voilà.
On voulait tous voir ça.
C'est dommage, je ne sais pas faire le cri du tyrannosaure, mais c'était une belle image. Merci. Il est de retour et il va faire mal, hein, on est d'accord.
Oui, bah, de toute façon, il va faire mal. C'est là où on annonce son match pendant 3 semaines ou c'est un peu plus tard, ça je ne sais plus.
Ouais, où on fait un spoiler direct et on annonce que de toute façon, il sera du match pour le titre au prochain takeover.
Oui, non, je vais parler du match qu'il va avoir contre le mec avec ton arc.
J'ai oublié les noms. Damien Priest,
bah oui. Il a un match le 6 contre lui.
Oui, le match contre le 6, ouais. À New York Evil, effectivement, il affrontera Damien Priest. Mais moi, je pense qu'on va le revoir dans la title picture principale très, très, très vite.
Je pense, mais déjà, le match contre Priest, j'ai envie de le voir. Hein.
Ouais, moi aussi. Alors là, ouais, carrément. Ouais. Effectivement, moi aussi, un match sur lequel je suis hypé. En plus, je suis vraiment curieux de voir comment Damien Priest va s'en sortir dans un match comme ça. Il fait partie de mes catcheurs favoris de la NXT depuis cette année 2020 là. Et vraiment, je suis content même pour lui, pour Damien Priest en fait, qu'il puisse affronter Karrion Kross. C'est une belle mise en avant, je pense pour les deux. Et Karrion Kross va pouvoir bosser avec un mec qui est chaud en ce moment, qui a du momentum. Donc c'est pour le coup un match super intéressant. Là, je pense que là on n'aura pas un squash, quoi. Là, je pense qu'on va avoir un vrai match de catch entre ces deux.
Ouais, je serais même pas étonné que ce soit pas le meilleur match de ce show là, tu vois. On verra.
On verra, et on verra sa situation dans la carte aussi.
Aussi.
Allez, il y aura un dernier petit backstage, enfin quelques backstage avec Isaiah Scott perdu dans les limbes du Cruiserweight Championship. Voilà, il dit qu'il a refusé de serrer la main à Jack Atlas la semaine dernière. C'est pas beau. Il a dit qu'il était frustré, qu'il aurait une revanche la semaine prochaine. Voilà, il nous tease un match face à Jack Atlas la semaine prochaine. Là-dessus, il se barre. Là-dessus, il y a les Ever Rise, notre tag team québécoise, là, qui vient et qui se plaint de ce qui s'est passé la semaine dernière parce qu'ils ont déjà eu des problèmes. Et donc, ils demandent à ce que la défaite de la semaine dernière soit annulée pour maintenir leur série de victoires. Et parce qu'ils disent tout simplement qu'ils visent la streak de Goldberg. Alors, papy, Ever Rise, la streak de Goldberg, les planètes.
Ouais, bon. Ça cassait pas trop de pattes un canard ce segment-là. Ils crient beaucoup pour enfin c'est un peu leur gimmick. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est la nouvelle génération de tag team qui arrive. Bah ils ont tous attendu de récupérer un petit peu de temps d'antenne par-ci par-là. Et puis bah j'espère que ça va relancer les divisions tag team. On en a bien besoin, la WWE, la tag team.
Ouais. Après, on aura Dexter Lumis qui aura fini son dessin. Hein. Et enfin, où on va apprendre qu'il va être le host de New Year's Evil.
Ouais, je suis pas super cohérent.
Alors quoi. Ouais, parce que j'ai vu le rôle de Shotzi Blackheart en tant que host à Halloween à Vogue, c'était voilà, ça va pas casser trois pattes à un canard comme t'as dit.
Non, mais alors, c'est malheureusement ce que je crains, c'est ça veut dire le message, c'est on ne sait pas quoi foutre de toi.
Ouais. J'ai bien peur qu'il ne soit impliqué dans quoi que ce soit ou juste au pire faire de l'interférence dans un match XY. Donc c'est un peu dommage. Voilà un mec que j'aime beaucoup aussi et qui passe un petit peu à la trappe, même si j'imagine qu'être le host comme ça d'un show spécial, ça peut, pour le catcher, c'est peut-être toujours une bonne exposition. Mais bon, j'aurais préféré le voir dans d'autres circonstances, le Dexter Lumis. Allez, dernier segment backstage avant le main event. On aura une vidéo du champion de Finn Balor qui vient de réagir à la victoire de Kyle O'Reilly. Il nous dit qu'il n'est pas inquiet parce que malgré le fait quand même que Kyle O'Reilly lui ait brisé la mâchoire, il n'a pas réussi à le battre au final. Et voilà. Et le prochain match, ça ne sera pas le deuxième qu'ils feront, ça sera tout simplement le dernier. Un Finn Balor confiant, mon papy.
Ouais, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est j'attends de voir ce qui va se passer dans ce match-là parce que je n'arrive pas à imaginer que ça sera juste une redite du premier match, en fait. Donc, il va se passer un truc.
Yes. Main event féminin. Tony Storm versus Rhea Ripley. Voilà. Rivalité, ex-NXT UK, où les deux ont été championnes d'ailleurs là-bas. Rhea Ripley est une former champion de NXT USA. Tony Storm est de retour depuis 2-3 semaines. Grosso modo un mois. Allez, je m'attendais à un match assez long. Finalement, elles ont eu 14 minutes, ce qui était pas mal. Mais je savais pas trop dans quel critère ils allaient rentrer parce que finalement, c'est plutôt une guéguerre de récréation là. Hein. C'est pas, il y a rien en jeu de particulier. Yoshirai n'apparaîtra pas de la soirée. Voilà, on aura un match quand même assez équilibré, bien disputé, 14 minutes. Il va y avoir pas mal de contres, il va y avoir pas mal de tentatives de tomber, en particulier sur le début de match. Ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, d'avoir fait ce choix-là de lancer des near falls, comme on allait avoir un peu du mal à tomber dedans, je pense, en début de match, et c'est pourtant le choix qu'ils ont fait. Pour moi, il n'y avait pas eu assez de strike assez fort pour pouvoir tenter direct des tombées, comme si, j'ai trouvé que c'était pas très, très bien timé, ça. Et voilà, Rhea Ripley va réussir à prendre l'avantage quand même à plusieurs occasions, mais il va y avoir un rééquilibrage des débats, puisqu'il va y avoir l'arrivée de Raquel Gonzalez, qui est aussi en feu avec Rhea Ripley, et elle va intervenir sans que l'arbitre s'en rende compte. Tony Storm, elle va en profiter pour placer son finisher, le Storm Zero, pour la victoire, et c'est Tony Storm qui célèbre sa victoire pour terminer le show. Voilà mon papy, victoire de Tony Storm face à Rhea Ripley. J'ai envie de te dire, Rhea Ripley, entre la fin de l'année 2019 et la fin de l'année 2020, il y a quand même un sacré différentiel dans la hype qu'avait cette fille à ce moment-là.
Ah, j'ai tout à fait d'accord avec toi, je me faisais la réflexion. Elle prend vraiment beaucoup, beaucoup de tombées ces derniers temps. C'est peut-être... je sais pas, j'arrive pas à me dire si c'est pas... une façon de donner un peu de profondeur à son personnage en évitant de la mettre juste la fille invincible qui gagne tout et peut-être de la retravailler, peut-être que la repartir plus bas et rebondir ou alors c'est parce qu'ils sont en train de préparer doucement son passage au main roster en disant là maintenant tu jobs pour tes copines. J'arrive pas à me faire l'idée là-dessus. Par contre, pour venir au main event, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un bizarre choix de main event. Il n'y a pas champion ni challengers, enfin, du moins pas que je sache, dans le ring. Tony Storm, j'aime pas, moi. J'aime pas. J'arrive pas à accrocher à cette fille-là. En plus, je trouve qu'elle est, j'en parlais tout à l'heure avec Christopher Daniels qui me semblait pas en méga forme. Elle, c'est pareil, tu vois. Elle est beaucoup plus jeune, mais elle me semble pas en méga forme non plus. Et puis ces coups, je les trouve un peu téléphonés, quoi. C'était pas super, quoi. Donc c'est pas un main event de grande qualité. C'est dommage que l'épisode était plutôt bien jusque là et le main event était un peu en dessous. comment elle s'appelle, Gonzalez, c'est ça, la, celle qui est intervenue.
Raquel Gonzalez, ouais.
Raquel Gonzalez, désolé, j'ai oublié son prénom. Elle m'intéresse beaucoup plus et je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas plus vu finalement. Parce que elle, je trouve que c'est vraiment la fille qui perce en ce moment et qui s'impose comme une potentielle rivale pour Yoshirai, tu vois, au moins sur une courte période. Mais enfin, je me demande si son moment est pas en train d'arriver pour elle. Et donc, j'aurais bien aimé la voir un peu plus. Et voilà, Tony Storm, je m'en fous, voilà, pour dire les choses clairement. Et Raquel Gonzalez, j'aimerais bien la voir plus. Donc, pas forcément le bon choix de main event. Ça peut-être faire un tag team la semaine prochaine ou une connerie comme ça pour rebondir sur cette intervention. Mais ouais, je suis pas persuadé du choix, quoi.
Comme tu dis, je suis pas persuadé, même pas persuadé du tout, puisque je considère tout simplement que oui, le Kyle O'Reilly versus Dunn aurait dû être le main event, aurait dû fermer le bal. C'était pour le number one contender de la title picture principale. Vraiment un choix étrange de mettre ça en mid-card. Moi j'ai pas compris. Le match féminin, moi j'ai trouvé qu'il était de qualité moyenne, moyen plus. Mais de là à le mettre en main event, là c'est incompréhensible. C'est pour moi effectivement ce match devait être au milieu de show et ça aurait été très bien comme ça, ça serait très bien passé. Donc vraiment, alors c'est bien. Moi je me plains jamais quand ils mettent les femmes en avant et que les femmes ferment le bal dans les différents shows. Mais il y a parfois des impératifs et je pense que le match pour le number one contender était un impératif. Donc en tant que booker, ça m'aurait paru évident que j'aurais installé immédiatement ce match-là. Ça aurait été le premier sur ma liste, sur mon paperboard. Donc voilà, je ne comprends pas non plus. Après, je crois que je l'avais déjà dit à cette antenne, peuple de catch-up, mais je suis comme le papy, vraiment pas fan du tout de Tony Storm. Je ne lui trouve aucun intérêt, je la trouve moyennasse dans le ring. Je la trouve très moyennasse en promo. Elle ne m'a jamais impressionné dans quoi que ce soit. Elle a été bien cachée pendant le War Games. Je suis beaucoup plus criant d'une rivalité entre Raquel Gonzalez et entre Rhea Ripley. Tony Storm, du fait de sa victoire, en plus, je pense, va se diriger vers Yoshirai. Mais je pense bien que Yoshirai va lui casser la gueule grave. Donc je ne m'inquiète pas pour Yoshirai.
J'espère qu'elle se fera attraver par le pied, quelqu'un va la faire redescendre dans la carte, peut-être par Ember Moon, qu'on n'a pas vu non plus cette semaine.
Qu'on n'a pas vu non plus, ouais.
J'aimerais, moi, sincèrement, mon fantasy booking, ça serait que Raquel Gonzalez se dirige vers Yoshirai parce que, mine de rien, elle a fait le tomber sur elle à Wargame.
Oui.
Et que, du coup, Tony Storm se fasse rattraper par la cheville, là, par Ember Moon, et quitte à avoir un match j'en sais rien de début de show ou de show post ou pré-pay-per-view, j'en sais rien, entre les deux, mais que Tony Storm soit pas tout de suite en main event et à la limite qu'elle y soit jamais, mais pour ça malheureusement je pense qu'on n'aura pas le choix au bout d'un moment. Mais voilà, par contre c'est Rhea Ripley, ça je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je me demande vraiment où elle va aller.
Ouais, et ben écoute, ainsi s'achève cette review du NXT du 16 décembre 2020. Nous allons terminer par les ratings. Alors, les ratings cette semaine. Alors, il faut savoir quand même que la semaine dernière, l'AEW a frôlé le million, hein, puisqu'ils ont été à 995 000. Une bonne baisse hein, cette semaine, puisqu'ils sont passés à 806 millions. Il y a l'Inde qui a regardé Dynamite cette semaine.
Voilà, ça y est.
Non, 806 000 viewers cette semaine. Du côté de NXT, la semaine passée avait été très très difficile face aux 995 000 de LAW puisqu'ils avaient fait 659 000, donc vraiment très très bas. Et bien cette semaine, NXT a fait un beau score puisqu'ils ont fait 766 000, donc ils étaient vraiment à 40 000 viewers de LAW. Donc là, ça a été une vraie baston, une vraie bagarre dans les ratings télévisuels de la AEW et de la WWE NXT. Donc voilà, nous allons maintenant passer aux ratings de la team catch-up, les seuls qui comptent vraiment dans cette review. Mon papy, il est l'heure de voter, il est l'heure de donner ton point divin à la NXT ou à la All Elite Wrestling.
Tadam, suspense. Alors, je pense pas qu'il y a trop de suspense. De toute façon, on verra si je te surprends ou pas. Déjà au niveau des ratings, je suis pas étonné qu'NXT se rapproche parce que je trouve que la semaine dernière, j'avais trouvé le show de NXT meilleur que celui de l'AEW, même si on l'avait pas reviewé. Parce que sur l'IW, je trouvais la semaine dernière qu'ils se reposaient un peu trop sur les acquis de Winter is Coming, qui avait été un plutôt bon show. Et cette semaine, eh ben, je trouve qu'ils sont toujours sur les acquis de Winter is Coming. Et du coup, ça fait deux semaines de suite qu'ils font un show qui est très en dessous, je trouve, du niveau attendu. Et du coup, pour moi, très en dessous d'NXT. Le seul bémol que j'ai pour NXT, c'est le choix du main event qui, pour moi, aurait dû être inversé avec le match de milieu de show. Mais hormis ça, c'est sans aucune hésitation que je donne la victoire à NXT qui, pour moi, a fait un bon show là où les EW m'a énormément déçu cette semaine.
NXT de la part du papy. Alors, me concernant, eh bien, écoute, moi, j'ai été très déçu par le main event de Dynamite. Mais alors, vraiment très, très déçu. Globalement, hormis finalement ce que j'aurais pointé pendant la review, c'est que la IW a mis beaucoup en avant les jeunes, etc. On a eu un festival de matchs tag team ou de matchs à beaucoup de catcheurs, et au final, ça n'a pas été folichon. Je considère que NXT a sorti une copie largement plus propre avec un très très gros match, en l'occurrence le O'Reilly versus Dunn. Que le main event, même s'il ne méritait pas d'être un main event, restait un match féminin sans aucune commune mesure avec ce qu'a proposé la All Elite Wrestling au niveau des filles. Ben voilà, je ne vais pas comparer un Tony Storm, même si je n'aime pas Tony Storm, ben je ne comparerais pas malgré tout un Tony Storm versus Rhea Ripley à un Serena Deeb versus Ivelisse ou Diamante et Big Swole, tu vois. Donc vraiment, pour moi, la division féminine, déjà NXT fait le taf et aide à prendre la tête. Et ils ont commencé par du catch à NXT aussi, et moi ça me plaît bien. Donc du coup, eh bien, écoute, mon papy, je vais voter pour NXT.
Bah, très bien.
Victoire de NXT. Victoire de NXT, les amis.
C'est oui, ça se rapproche. Mais sincèrement, depuis le début que je participe avec toi à ces reviews, c'est la première fois que je trouve autant d'écart entre les deux shows. Là, franchement, j'ai même pas sourcillé une seconde pour décider.
Ouais, j'avais fait mon choix aussi avant la review aussi. Moi aussi, de toute façon, j'étais convaincu par NXT. Après, moi, j'ai souvent été dans le camp de la All Elite Wrestling. Donc, si tu veux, j'ai pas de mal à en dire du mal. Voilà, la All Elite Wrestling est passée à côté de son show pour moi. Donc là, c'était un mauvais point et je vois pas comment j'aurais pu. Je vois pas comment j'aurais pas pu donner mon vote à la NXT sur cette baston du 16 décembre 2020. Voilà, papy, on est arrivé au bout de cette baston. Alors, écoute, il y a pas mal de choses à dire dans le sens. Cette semaine, mes amis, et la semaine qui vient, voilà, c'est Noël qui débarque. Vous avez déjà en ligne le Monday Night Show de cette semaine. Vous avez en ligne aussi la review, la grande analyse. Vous allez avoir le SmackDown qui va suivre, qui incorporera les pronos de TLC, on est bien d'accord. Et puis après, bah là, c'est festival, hein, c'est semaine de Noël, review de TLC, review de Raw, review peut-être de Baston, review de SmackDown, c'est la totale absolue. On se lance vers la dernière ligne droite de l'année 2020, donc on vous annonce aussi les Catch-Up Awards qui se dérouleront certainement sur le début, tout début janvier, comme l'année passée, avec toute la team catch-up pour décerner nos awards catch-upiesques de l'année. Vous pouvez, pour toutes ces informations, ben, vous renseigner sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Allez, vous pouvez aussi faire sonner la cloche sur YouTube. Laissez des commentaires, laissez des pouces bleus. Voilà, n'hésitez pas, les commentaires, on vous répondra, on vous écrira. Et puis, bah, bien évidemment, si vous voulez nous parler encore plus dans l'intimité, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté Catch-Up de Discord. Voilà, vous pourrez discuter avec nous de toutes les reviews. Vous êtes au courant direct comme ça aussi de quand sort une review, quelle qu'elle soit. Voilà, je suis arrivé au bout de la promo Catch-Up. Mon papy, c'était un plaisir de se taper une bonne baston à l'ancienne avec toi.
Mais c'était un plaisir partagé. Et je fais juste un petit aparté parce que j'en profite pour encourager vivement nos auditeurs à écouter la review de Triple Mania. Parce que même si C'est pas un show qui est habituellement commenté sur nos ondes. Et même si bah, un mec comme moi qui connaissait vraiment rien, et ben en écoutant Tonton, j'ai tout compris. Ah. C'est passionnant. Donc, belle présentation. Félicitations, Tonton. Je passe pas la brosse à relure. C'était vraiment très bien. Donc, même si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est vraiment très intéressant.
Ah, merci, merci mon tonton, merci mon papy. Oh, c'est moi le tonton, c'est lui le papy.
Ah, j'ai troublé.
Nous sommes des bons amis. Allez, wow, ouais, moi aussi je suis troublé. Et d'ailleurs, j'en ai été troublé que j'en ai oublié de citer les plateformes de podcast. Parce que voilà, notre pain quotidien sur iTunes, Podcloud, Spotify. Et, mais on me dit dans l'oreillette qu'il y a une histoire avec Aosha. Alors papy, t'en sais plus là-dessus, quoi. Apparemment, Aosha serait un espèce de distributeur en général de podcasts. Et à partir de cette plateforme, on pourrait avoir le podcast catch-up par flots entiers.
Oui, il me semble que c'est ça. C'est quand tu publies sur Aosha, il te publie ça sur toutes les plateformes de podcast que tout le monde de France et de Navarre.
Ouais, c'est formidable. On est à la pointe de la technique, quoi. C'est vraiment là. Pouah. Merci à la c'est technique, beau, hein. Merci aux familles, tout ça, quoi. Là, vraiment, vraiment, on est épaté. Allez, peuple de catch-up, on va se quitter là-dessus. On va vous souhaiter donc de belles fêtes de fin d'année. On va vous souhaiter surtout une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut mon papy.
Salut tonton et puis salut à tous.
Allez, tonton Bourpif et papy pied au cul vous souhaitent de joyeuses fêtes. Salut, peuple de catch-up. Oh oh.
Bit of the bubbly.
That's undisputed.
I'm better than you, and you know it.
And we are NXT.
War Games.
C'était un marathon cette review.
Oui, 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 effectivement, c'était de longue haleine, mais il fallait bien ça pour une belle baston.
J'ai crevé le pneu de mon déambulateur. Merde.
Oh oh.